pas être long avec ce temps de parole. J'aimerais juste donner plusieurs points au niveau information, un peu tout azimut. D'abord, en commençant par ce matin, j'en profite pour enseigner un tout petit peu au niveau de la louange, ce qui se passe de temps en temps. Parfois, on apprend le chant, par exemple, qui dit je m'abandonne à toi, je veux que tu sois mon roi. Et il y a un moment où ce chant, il y a eu un switch, c'est-à-dire qu'ensuite, c'était plus le « je », nous, individus, qui chantions, mais en tant que sacrificateurs, nous portions la France. Donc, je vous rends attentif à ça, parce que dans la louange, parfois, il y a une onction sacerdotale qui vient. Et c'est plus nous-mêmes qui chantons, mais on porte tout un peuple quand on chante. Et ça devient une louange prophétique dans le sens d'une louange d'intercession. Et je ne sais pas si vous l'avez senti, mais il est bon de mettre les mots sur ce qui se passe. Et c'est pour ça que ça a été repris autant. Il y a le drapeau français et tout ça. C'était parce qu'on est passé d'une louange individuelle à une louange de sacrificateur qui porte un peuple entier. Et ça, c'est des dimensions de la louange dans lesquelles Dieu veut nous inviter à rentrer. Ce n'est pas nous qui le choisissons, mais ça a été conduit par le Saint-Esprit de cette manière. Autre chose, vendredi dernier, dans ce tabernacle de louange, eh bien, nous avons vraiment été, visités par le Seigneur. Il y a toujours eu cet aspect de coup de boutoir que l'on donne encore dans l'intercession. Et c'est vrai que rentrer dans la présence de Dieu, parfois, c'est un peu long. Ça demande un peu des efforts, quelque part. Et c'est vrai qu'après 2 heures de louange, on était un peu sur le parvis, quelque part. Et puis, ensuite, on est vraiment non seulement rentré, mais ensuite, c'est Dieu lui-même qui nous utilisait pour faire ce qu'il avait à faire. Et c'est ça, en fait, la louange, c'est rentrer dans une dimension où ce n'est plus nous qui choisissons ce qu'on veut chanter, ce qu'on veut adorer, etc. Mais c'est le Christ qui nous saisit son peuple et l'amène à prier et à chanter ce que lui, il veut. Et nous rentrons là aussi dans une louange prophétique. Et encore une fois, la France est revenue sur le tapis, je dirais, vendredi soir. Donc c'est des moments importants. Je vous rappelle, c'est des moments mensuels, mais c'est des moments solennels et je crois que chaque fois, ça va plus loin. Je rappelle que ces moments sont ouverts à toutes les églises. N'hésitez pas à inviter autour de vous, non pas des touristes, mais des gens qui veulent vraiment passer ce temps dans la présence de Dieu et louer. L'objectif, ça serait que plusieurs églises soient représentées dans cette louange-là. Voilà, autre chose aussi, 2 moments importants. Bientôt, nous avons donc Pierre-Daniel Martin, du 27 au 30 mars. J'ai refait il y avait pratiquement plus de petits dépliants comme ça, donc j'en ai refait. Et merci de penser à vous inscrire. Il y aura 2 soirées publiques qui seront le 27 au soir, le mardi, et le 29 au soir, le jeudi. Autre information, le groupe de préado, ils se sont rencontrés une fois particulière au niveau du groupe de louanges de préado. Donc il y a Raphaël qui a commencé à faire travailler, je crois qu'ils étaient une douzaine. Donc parmi le groupe de préado, ceux qui jouent un instrument, ceux qui veulent rentrer dans une dimension de groupe de louanges. Alors, ils apprennent un chant pour l'instant, et l'objectif, c'est que d'ici quelques années, on fasse fructifier les talents, mais pas les talents seulement individuels, mais de façon collective, de façon à ce que, de la même façon qu'un fireproof a démarré à travailler ensemble sur une vision de Dieu et nous bénit en tant qu'Église, de la même façon, ce groupe de préado, dans les années qui viennent, l'objectif, c'est qu'eux aussi puissent ensuite nous mener dans la louange. Donc voilà, je vous dis ça pour que vous puissiez prier pour cela et accompagner ce qui se fait. Ils ont eu 3 heures ensemble de répétition. Ils en veulent et on veut vraiment les bénir pour ça. Ensuite, je vous rappelle aussi Martin Scott, donc les intercesseurs d'Angleterre, qui vont se joindre à des intercesseurs d'Afrique du Sud et qui vont venir donc début mai. Les dates exactes, c'est 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 mai. Donc, réservez ces dates, il va se passer des choses particulières là. Et eux-mêmes qui préparent ces moments dans la prière, c'est quand même étonnant. Nous avons là des gens, chacun d'entre eux pourrait être un ministère à part entière. Voyez, en général, le modèle classique, c'est quoi? C'est un ministère qui est reconnu de Dieu, il est invité dans une église, il balance son message, il reçoit l'argent pour les frais de transport qu'il a eu, tout ça, il repart. Bon, il y a eu quelque chose de Dieu, on est bien d'accord. Mais là, nous avons des gens, chacun d'entre eux pour être un ministère à part entière, ils viennent sur leurs frais, simplement parce que Dieu leur dit, vous allez prier en Alsace. Et donc, voilà, on a des grosses pointures qui viennent. Et je pense que si des gens du monde entier viennent parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui se passe en France et en Alsace, à combien plus forte raison, nous, on devrait se sentir responsable en premier de cela et de pouvoir les accueillir, préparer ce terrain dans la prière et plus peut-être. Autre chose, un dernier point. Non, autre chose. La semaine d'Alliance évangélique la semaine passée, donc je ne sais pas, j'ai eu des bons échos. En tout cas, les quelques moments que j'ai pu vivre ont été profitables. Le culte en commun, dimanche dernier, c'était bien. Hein, ceux qui étaient là, j'espère que c'était un bon culte. Quoi. C'est des relations qui se tissent, la confiance qui vient. Et voilà, donc on aimerait que, bien sûr, ces choses puissent aller plus loin, mais c'était quand même super. Un dernier point, nous avons eu en fin décembre, on a oublié de vous le dire, parce qu'il y a eu les fêtes et tout ça, un contrôle URSSAF au niveau de l'église, et tout a été nickel, ok. J'aimerais remercier Patrick Beck et puis Pierre Lichtensteiger aussi, qui nous aident au niveau de cette transparence des comptes. Il n'y a rien eu à redire. Un petit détail, c'est le soutien régulier que nous faisons à Johan Rivaud. En fait, ça étique un peu. Ils n'aiment pas des soutiens réguliers. Ils préfèrent que de temps en temps, on rembourse un billet d'avion plutôt que de soutenir de façon régulière même un missionnaire. Donc voilà, ça c'était le côté. Ils nous ont demandé de ne pas faire de soutien régulier et que les sommes que l'on donne correspondent à des vraies factures, à des billets, etc. Voilà, c'était la seule petite parenthèse qui était donnée. Et puis autre chose, donc sur les tables, il y a des livres qui sont là, de Claudio Freidson sur le Saint-Esprit et de Coster sur l'Église. Oui. Ces livres-là, n'hésitez pas à les voir. On peut pas trop les présenter là, parce que si on est vraiment très loin. Donc c'est Michel qui les a. Je peux vous assurer, ce sont des livres de qualité. Ceux qui veulent en savoir plus par rapport au Saint-Esprit, en particulier Claudio Fardion, est vraiment intéressant. Je connais son témoignage en particulier, c'est vraiment intéressant. Il a démarré une église avec des vieilles madames. Et quand il pleuvait, elles ne venaient pas. Donc ils étaient tout seuls au culte pendant des années. Petite église, etc. Et puis petit à petit, le Saint-Esprit a pris les choses en main et maintenant ça fait partie des revivalistes d'Amérique du Sud et du monde entier. Voilà. Alors Anne aussi me rappelle qu'il y a des gâteaux qui sont là à la sortie, pas tout de suite, hein. Voilà. Et ces gâteaux, c'est pour une sortie des élèves du Collège Daniel, c'est ça ? Voyage en Hollande, hein, oui. Voilà, dans le cadre d'un échange hein, d'école chrétienne. Donc, achetez des gâteaux, mangez. Régalez-vous, congelez-les, mais prenez le stock là à la sortie. Hein, voilà. Et voilà, donc simplement, je vais être plus court que prévu parce que je suis bien conscient qu'il est déjà midi moins 5 et que certains ont peut-être des estomacs qu'ils ne maîtrisent pas. Alors, on veut. Et le thème que j'avais à cœur, c'est le thème du repos. Et c'est le thème qui serait très apprécié peut-être en Corse, mais peut-être par les Alsaciens, peut-être un peu moins, je ne sais pas. Et j'aimerais qu'on lise simplement ensemble, et on va être... Je vais relever simplement les points essentiels. Donc c'est dans Hébreux chapitre 4, on veut prendre ce texte. Je pense vraiment que dans cette année 2007, le Seigneur veut nous apprendre à agir à partir d'un lieu, à partir d'un état d'esprit, à partir d'un fondement qui est le fondement dont nous parle justement Hébreux chapitre 4 qui s'appelle le fondement du repos dans le Seigneur. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard, car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit « J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde. Car il a dit quelque part à propos du septième jour « Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. » Et de nouveau dans ce passage « Ils n'entreront certainement pas dans mon repos. » Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez de sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, afin que personne ne tombe en suivant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, acérée comme aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments, les pensées du cœur. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu, terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc voilà, ça c'est cette parole qui nous parle du repos. Les Hébreux, c'est une épître qui s'adresse aux Juifs. Donc, enfin, aux Juifs qui sont convertis, mais qui ont du mal avec toutes ces nouvelles façons de voir, de pratiquer un culte même. Ils avaient beaucoup de mal. Et donc, l'Épître aux Hébreux, c'est pour un peu les aider à rentrer dans cette nouvelle alliance, dans cette nouvelle façon d'œuvrer et de servir Dieu, sans plus tous les artifices et les traditions juives de l'époque, etc. Donc, la signification du véritable repos. On voit dans la Bible plusieurs mentions du repos. Par exemple, dans un roi, Salomon, qui dit ceci: « Maintenant, l'Éternel m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de coups malheureux. » Et Salomon, c'est une image de l'Église. Et avant Salomon, il y a eu David. Et David, c'est l'image de Jésus. Jésus, c'est le fils de David. Donc avant Salomon, il a fallu un David. Et David, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la guerre. Il a combattu pour que Salomon puisse avoir la paix. Et notre David à nous, Jésus, il a fait la guerre, il a remporté la victoire sur la croix pour que nous puissions avoir la paix. Dans Ésaïe 30, on a 1 Roi, chapitre 5, verset 18. Ésaïe 30, 15. C'est dans le retour à Dieu et dans le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et votre confiance que sera votre force. Donc, juste, je donne ces versets parce qu'on y reparlera rapidement, mais retenez ceci. Là, le repos est mis en relation avec la foi. Et ensuite, on a Matthieu 11, 29. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alors là, le repos est mis en parallèle avec un joug et avec des instructions. Donc voyez, on commence à voir une image du repos un peu plus grande que simplement le fait de « je suis fatigué, je vais me reposer, merci Seigneur hein ». Ce n'est pas ça. Ensuite, psaume 23, verset 2, « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Les verts pâturages sont symboles de la nourriture abondante. Et la nourriture abondante, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Donc voilà un peu quelques flashs qui nous sont donnés par rapport au repos. Et maintenant, on veut voir un peu l'attitude plus fondamentale de ce repos et juste voir ce mot un petit peu dans tous les sens. Alors bien sûr, ça veut dire s'arrêter de travailler, hein, s'arrêter de travailler, mettre fin à une action. Mais si on réfléchit à ce sens, ça veut dire quoi? En tant que chrétien, ça veut dire arrêter nos propres efforts pour obtenir quelque chose de Dieu, le salut par exemple. Vous voyez, croire qu'il nous est nécessaire pour satisfaire Dieu de faire plein de choses. Et ça, cette épître aux Hébreux nous dit, voilà, les Hébreux, ils avaient l'habitude de faire des choses. Et Dieu dit, attention, rentre dans le repos, dans ce que Dieu, il a fait, lui. Mais arrête de faire pour lui. Lui, il a fait les choses. Et donc, rentre dans son repos, rentre dans ce qu'il a fait, lui. Arrêtons d'essayer de satisfaire Dieu par des œuvres charnelles. C'est ça que ça veut nous dire. Parce que Dieu, le repos, il est parfait. Il nous l'accorde par la grâce. Le repos, ça veut dire aussi également la libération des soucis de nos fardeaux. Et c'est vrai que les fardeaux, on a une capacité étonnante de les reprendre même sans s'en rendre compte. Je ne sais pas vous, mais on est tous un peu pareil. C'est-à-dire, on pense qu'on n'a pas de fardeau, et puis tout d'un coup, on rentre dans une présence de Dieu, et tout d'un coup, on se rend compte de tout ce qu'on trimballe. Mais c'est que dans la présence de Dieu qu'on se rend compte de tout ce qu'on a trimballé jusque-là. Et en fait, on n'est pas tellement conscient toujours de tous les fardeaux que l'on porte. Et le Seigneur nous dit, voilà, c'est dans ma présence. Par exemple, au tabernacle, il y a eu un temps où c'était vraiment la paix de Dieu. Et vraiment, j'ai senti Dieu qui ôtait les fardeaux. Et vous voyez, ça vient quand on rentre dans sa présence. C'est ça, entrer dans son repos, vous voyez. Donc, le repos, ça signifie qu'on trouve la paix, la maîtrise de soi, la tranquillité intérieure. C'est être en paix avec Dieu. Bien sûr, le repos, le premier repos, c'est être en paix avec lui. Être en paix avec lui. Être libre du souci. Et le souci, c'est souvent le péché. Tout à l'heure, on a chanté je ne cache pas mon péché. Et en fait, il est prouvé, même médicalement, que le péché engendre des dérèglements au niveau physique. Et beaucoup de choses au niveau cardiovasculaire aussi sont souvent dues au stress qu'engendre le péché. Le fait de cacher des choses, de ne pas les dire, le fait de n'être pas dans la vérité avec son conjoint, avec ses amis, de cacher son péché, ça amène un stress au niveau du corps, en plus du niveau de l'esprit. Et donc nous ne sommes pas faits pour ça. Nous sommes faits pour marcher dans la lumière. Et nous ne sommes pas faits pour ne pas être en règle avec Dieu. Ne pas être en règle avec Dieu, c'est vraiment, on a tout faux, parce que notre corps porte quelque chose, et ce n'est pas bon pour ça. Le repos, ça signifie aussi être ancré, être installé dans la sécurité. La sécurité. Tu vois, parfois, on a... Bon, c'est facile de parler de sécurité quand tout va bien, plus ou moins. Hein. Mais dès qu'on a affaire à la maladie, à la mort, à un porte-monnaie qui est vide, ça commence à toucher. Et ces choses-là, Dieu les permet pour voir où nous en sommes avec notre véritable ancrage. Ce qu'on pensait être un repos, c'était simplement, on se laissait porter par les circonstances assez bonnes de la vie. Et Dieu, il permet parfois que ça soit ôté pour qu'on tous trouve un meilleur repos, qui ne soit pas un repos dans les circonstances même bénéfiques de ta vie, mais qui soit dans le seul repos que Dieu donne, qui est un repos avant tout spirituel. Alors c'est bien évident, s'il y a un vrai repos en Dieu, ben tout est bien, notre corps, il va mieux, notre âme aussi. Mais la vraie notion du repos, c'est cette notion spirituelle, de la sécurité. Et on parlait de la France tout à l'heure, notre pays de France n'est pas dans le repos. Et vous savez, on est le peuple qui mange le plus d'antidépresseurs, etc. Il y a une profonde angoisse, plus que les autres nations. Et parce que nous errons, nous sommes un peuple qui errons au niveau philosophique, au niveau de nos pensées, au niveau des styles de vie, au niveau des repères. Nous n'avons plus de repères en tant que nation. Et alors, il y a une insécurité qui est là. Il y a un stress qui est là. Et cela, Dieu veut qu'on en soit conscient en tant qu'enfant de Dieu. Nous avons à donner un message qui apporte le repos à des gens qui ont tourné, cherché, parfois jusqu'aux extrémités de la terre, sans trouver. Et il y a des tas de cœurs comme ça qui cherchent et qui attendent une réponse, et qui tournent, et qui ne sont pas dans le repos, et qui sont dans l'angoisse. Et on peut être aussi chrétien, malheureusement, et encore avoir des parties en nous qui sont inquiètes, fondamentalement inquiètes. Et Dieu dit, ne sois pas inquiet. Tout à l'heure, il nous a été dit, le Seigneur nous aime, combien il nous aime. Et ça, on a besoin que, non seulement de l'entendre, mais de le vivre. Un culte comme celui qu'on a, parfois des gens ils disent, oui, mais ça c'est émotionnel. Des gens qui pleurent, des gens qui rient, tout ça c'est émotionnel. Un jour, une fois, une pastorale, on me disait, mais c'est quoi? Est-ce qu'il y a des gens qui rient dans ton église? Ben, j'ai dit, oui, il y en a qui pleurent aussi parfois. Hein. Et ça, c'était comme si c'était déraisonnable, vous voyez. Pourquoi est-ce qu'on parle comme ça? Parce que nous sommes un peuple français qui a eu l'habitude de tout juger avec sa capacité de raisonner. Et si cette capacité de raisonner n'est pas satisfaite, alors on dit que ce n'est pas de Dieu. Mais le Seigneur, quand il touche un homme et qu'il touche une femme, il touche son être tout entier. Quelqu'un qui ne pleure jamais en priant, il y a un problème dans la vie. Quelqu'un qui ne peut jamais se réjouir en Dieu, il y a un problème dans ta vie. Et je crois que la vie, la communion, la sécurité, le repos que Dieu veut donner, ce n'est pas un repos genre le nirvana, vous savez, ça y est, j'ai plus de désir. Ça y est, j'ai plus de souffrance, j'ai plus de désir, ça y est, je suis mort. C'est la mort, ça. Ce n'est pas la vie chrétienne, ça. Les gens qui veulent pas, ils veulent refuser tout désir pour ne pas souffrir, pour ne pas faire souffrir le monde non plus, on ne va pas marcher sur les fourmis, on ne va pas tuer les mouches, tout ça. Mais c'est ridicule par rapport au repos que Dieu nous propose, qui est un repos qui est plein, qui est un repos où l'on vit, qui est un repos où tout notre être, il est vibrant pour Dieu. C'est ça le repos. C'est pas le ronflement. C'est pas le allongé et puis ça y est, on roupille. C'est pas ça le repos de Dieu. Alors, le repos, c'est la confiance en Dieu. C'est la confiance en Dieu. Une confiance inébranlable. C'est s'appuyer sur quelqu'un. C'est ça le repos de Dieu. C'est ça le véritable repos que Dieu nous propose. Nous savons en qui nous avons cru et nous tenons ferme. Ça, c'est le repos que Dieu donne. Et puis, il y a un repos que vous ne trouverez pas dans aucun dictionnaire. C'est la notion du repos qui est le repos du royaume. Un jour, le Seigneur revient. Il va revenir et il va dire, vous allez vous reposer de vos œuvres. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va rien faire, mais ça veut dire qu'on va se reposer de tout ce labeur quand même qui était là, qui n'est pas facile. On travaille à contre-courant quelque part. Et bien Dieu dit, voilà, il va régner sur cette terre, notre Seigneur, et là, on va vivre un véritable repos. Nous vivons que des prémices d'un repos, mais on peut vivre sûrement beaucoup plus que ce que nous vivons actuellement. Et puis il y a le repos éternel, le repos céleste. Alors voyez, ce repos, il est disponible. La Bible nous dit dans ce qu'on a lu, craignons donc, parce que tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, elle subsiste. Ceux qui ne connaissent pas ce repos, Dieu dit voilà, c'est encore possible. C'est encore possible. Et il y en a un. Et Dieu dit ne crains pas n'importe qui, mais il n'y en a qu'un qui est à craindre. C'est Dieu. Et c'est lui qui peut mettre dans la géhenne ou donner la vie éternelle. Lui, il est à craindre. Et c'est vrai que, mais en tant que chrétien, il n'y a plus à craindre. Il n'y a plus à craindre. On peut vraiment s'appuyer sur cette promesse et en même temps, pour les autres, on peut annoncer la porte, la promesse d'entrer dans le repos, elle subsiste encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, elle subsiste. Et ce repos, il parle ici au peuple d'Israël, aux Hébreux, aux judaïsants, et il leur dit, voilà, arrêtez de judaïser, mais commencez à rentrer dans ce véritable repos. Et Dieu parle à ce peuple qui n'a pas abandonné. Et la porte est encore ouverte aujourd'hui. Bon, le but, ce n'est pas de parler d'Israël, mais dans ce texte, il est dit que pour ce peuple d'Israël, c'était encore possible de rentrer dans ce repos. Alors, quels sont les éléments de ce repos? Et j'en ai trouvé trois. Trois éléments qui composent le repos. Le premier, c'est la notion de foi personnelle. Le deuxième, c'est la notion d'un décret souverain qui vient de Dieu. Et le troisième, le repos, c'est une action qui est immédiate, aujourd'hui, que Dieu nous appelle à agir de cette manière. On va juste le voir rapidement. Première condition, la foi. Dans ce texte, il nous est dit, le peuple d'Israël n'est pas rentré dans la terre promise au départ parce qu'ils n'avaient pas cru. Donc Dieu dit, ils ne sont pas rentrés dans mon repos. Pourquoi? Parce que la foi n'était pas là. Et je crois que cette année, il faut absolument que nous entretenions cette foi que Dieu nous a donnée. Et que cette année 2007, on aille plus loin dans la foi qu'en 2006. Que nous puissions entrer dans un plus grand repos. Et ce plus grand repos, ça veut dire plus de foi. Plus de foi, Seigneur. Plus de foi. Voyez, beaucoup diront, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, tout ça, mais Dieu, je ne vous connais pas. La foi du cœur, une véritable foi du cœur. C'est ça qui est important. Et dans cette épître, Dieu leur dit, voilà, les Juifs de l'Ancienne Alliance, être véritablement juif, c'est pas disposer de la loi simplement, mais c'est lui obéir. Et être chrétien, c'est quoi? Être chrétien sous la Nouvelle Alliance, c'est pas seulement connaître l'Évangile. Être chrétien sous la Nouvelle Alliance, c'est placer notre confiance dans cet Évangile. Et ça, c'est différent. Et parfois, on peut avoir tendance de s'installer. Mais Dieu dit, où elle en est ta foi dans l'Évangile? Où elle en est ta foi dans l'Évangile? Peut-être tu es dans la crainte en ce moment. Peut-être il y a beaucoup de choses qui te tracassent. Mais qu'en est-il de la foi? Qu'en est-il de la foi en ma parole maintenant en ce moment, dans la situation précise que tu passes? Et là, Dieu nous interpelle à placer de nouveau notre confiance en lui. Vous connaissez Pierre, hein, Dieu lui dit, sors de la barque, viens me rejoindre. Il l'a rejoint, il a marché sur l'eau, puis tout d'un coup, il a regardé les éléments extérieurs. Et vous savez, cette paix de Dieu qui marchait sur l'eau, qui chasse la tempête, ce n'est pas seulement une parole de Dieu qui chasse la tempête. Ce n'est pas Jésus qui dit « tempête, ça suffit ». C'est plus que ça, c'est la paix de Dieu, la paix de Jésus qui a vaincu la tempête. Ce n'est pas seulement du bout des lèvres, mais ce bout des lèvres était l'expression de toute sa personne. Et quand il dit « tempête, maintenant c'est toi », c'est la paix de lui, l'onction de paix qui remplissait toute sa vie, qui sort par sa bouche et qui a vaincu toute tempête. Donc ce repos de Dieu, il commence dans notre cœur. Il commence dans une relation avec Dieu et dans la foi dans l'Évangile. Dans la foi dans l'Évangile. Et Dieu dit, il nous faut entrer dans son repos. Probablement qu'on veut y être, mais il y a probablement beaucoup plus que cela. Beaucoup plus que cela. Paul, il a exprimé sa joie et sa reconnaissance, par exemple, avec les chrétiens de Thessalonique, non seulement parce qu'ils avaient accepté l'Évangile, hein, on voit ça dans 1 Thessaloniciens 2, 13, mais aussi parce qu'ils y avaient cru. Et ça, c'est deux choses différentes. On reçoit l'Évangile, on est content de l'entendre, mais on le croit. Voilà. Alors, ce repos, ce qui est intéressant, il est dit « rentrer dans mon repos ». C'est Dieu qui parle. C'est son repos à lui. Ce n'est pas le nôtre. Il nous dit « tu veux rentrer, rentre dans mon repos ». C'est le repos de Dieu lui-même. Et vous savez, ce repos de Dieu, c'est quelque chose d'étonnant. C'est quelque chose d'étonnant. Déjà depuis la création, il achève sa création et dit « ça y est ». Il bénit et il se repose de ses œuvres. Il a tout accompli. Jésus a prononcé cette même parole. Tout est accompli. Et en fait, il veut qu'on apprenne à se reposer dans ce qu'il a fait lui. À ce plein repos. Donc ça demande la foi dans ce qu'il a fait. Et c'est vrai que parfois, dans certains aspects de nos vies, là où la foi n'a pas été stimulée, bien, il y a de la crainte. Et il y a un manque de repos. Alors voilà, ça, c'est le repos de Dieu. Ce n'est pas notre repos. Et le repos du sabbat, il a été institué comme symbole du véritable repos. Le premier problème que Jésus a vécu sur cette terre avec les pharisiens, c'était la question du sabbat. Et les juifs disaient, voilà, c'est un jour, on ne fait rien. Et Jésus lui dit, Jésus n'arrêtait pas de faire des choses. Il guérissait les gens, etc. Il voulait nous dire par là que le sabbat, c'est pas ne rien faire, mais le sabbat, c'est faire ce que Dieu il fait. C'est se reposer. On ne fait plus nous-mêmes, mais on le laisse faire lui. Et qu'est-ce qu'il faisait le Père ? Qu'est-ce qu'il fait le Père ? Il guérit les malades, il soulage, il ouvre les yeux des aveugles, etc. Donc c'est ça que ça veut dire. En fait, le vrai repos, c'est être guéri, c'est être restauré, c'est être réconcilié. C'est ça le vrai repos. Et Jésus, il est venu pour faire rentrer dans le repos. Donc quand il rencontre un malade, pendant le sabbat, le vrai sabbat, ce n'était pas de rien faire, le vrai sabbat, c'était de faire rentrer dans le repos ces personnes qui étaient autour de lui. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment important. Adam et Ève, dans le jardin, ils étaient dans le repos, un parfait repos. Ils parlaient avec Dieu, en communion avec lui, etc. Et quand Satan est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils n'ont plus fait confiance à Dieu. Ils ont fait confiance au serpent. Et là, ils ont perdu le repos. En fait, là où tu places ta confiance, c'est ça qui va déterminer le repos dans lequel tu vas pouvoir vivre. Et apprenons à agir à partir d'une situation de repos. Voyez, n'acceptons pas d'agir sans ce fondement du repos, qui est la certitude que Dieu il agit à notre place. Il agit pour nous. Il a tout fait. Nous n'avons pas à nous démener. Vous pouvez avoir deux types de personnes. Il y en a une qui va se démener pour le Seigneur, d'accord, mais qui va se démener avec au fond de cette crainte en disant « Mais si je ne fais pas ça, si je ne fais pas ceci, ben c'est foutu. » quoi. Voyez, ce genre de crainte-là qui manque de repos. Et je crois que Dieu veut nous faire entrer dans ses œuvres à lui. Et c'est lui qui fait. Et c'est lui qui agit. Et on a plus ce stress qui est là. Donc vous voyez, Adam et Ève ont perdu le repos à partir du moment où ils ont détourné leurs yeux du Seigneur. Et ils ne l'ont plus cru. Voilà. Alors le repos, c'est la vie. C'est la vie telle que Dieu l'a conçue. Et c'est un décret divin. Dieu dit, voilà, le repos, il est réservé. Il est encore réservé, versets 5 et 6. Ça, c'est un décret divin. Il est réservé à ceux qui doivent y rentrer. Ça, c'est un décret souverain de Dieu. Et c'est à cause de ce décret. C'est pas seulement parce que nous, on veut y rentrer qu'on peut y rentrer. Mais c'est parce que Dieu a dit, vous pouvez y entrer. C'est pour ça qu'on peut y rentrer. C'est pareil pour le salut. C'est pas parce qu'on le veut qu'on est sauvé seulement. Mais c'est parce que Dieu a dit, je veux que vous soyez sauvés. Donc c'est le décret divin qui permet que nous soyons. Nous sommes sauvés par deux choses. Par la volonté de Dieu, un. Et par notre réponse à cette volonté, deux. Et donc Le repos, c'est ça, à cause d'un décret de Dieu qui dit « rentrez, venez rentrer dans mon repos ». C'est à cause de ça qu'on peut y rentrer. Et bien sûr, la désobéissance nous empêche de rentrer dans ce repos. Et je parlais d'action immédiate, rapidement. Eh bien, Dieu dit, voilà, Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Donc, rentrer dans ce repos, ce n'est pas pour demain. Dieu nous dit aujourd'hui. Et peut-être, pendant qu'on écoute ce message, vous voyez, tiens, ben ça, il y a un domaine où vraiment, il n'y a pas le repos. Eh bien, Dieu dit, ne laisse pas traîner, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu rentres dans ce repos, dans cette foi, dans cette confiance en moi. Le repos est donc, la nature du repos, c'est quelque chose de spirituel d'abord. La terre promise, Josué, il ne l'a pas conquise en entier, mais on ne peut pas dire que c'est le paradis sur terre, même une fois cette terre conquise. Donc c'était une image d'un repos à venir. Voyez. Donc c'est une notion de symbole qui est là, une notion de symbole. La nature du repos, elle n'est pas d'abord physique, elle est spirituelle. Et ça, c'est très important. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer physiquement. Mais entendons-nous bien, ce n'est pas d'abord le sens physique que ça veut dire. Le peuple d'Israël, c'est un peuple que Dieu dit, voilà, il y a le signe du sabbat qui est le signe de quelque chose de bien plus grand, qui est un grand repos. Un repos aussi qui est à venir, pas seulement présent, mais qui est aussi un repos à venir. Et Dieu nous dit, voilà, j'ai un repos pour toi. J'ai un repos pour toi dans l'avenir. Et Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous trouverez du repos pour vos âmes, du repos pour toute votre personne. Et c'est à partir de là qu'on peut manifester la gloire du Seigneur. Donc ce repos-là, eh bien, nous devons le rechercher. Il est pour nous, Dieu veut nous le donner, il faut le prendre. Et que nous ne tombions pas dans des activismes cette année, mais que nous puissions, à partir du repos de Dieu, eh bien, agir et prendre toutes nos responsabilités à partir de cette position de repos. Ne soyons pas comme ce peuple d'Israël qui n'est pas rentré dans le repos parce qu'il était incrédule. Donc c'est notre foi qui va déterminer la qualité du repos dans laquelle nous pouvons rentrer. Et quand on voit ces figures de la Bible qui malgré tout étaient... c'était pas, humainement parlant, on aurait dit, mais c'est pas du repos. Et pourtant, c'est du repos. Moi, je vois un apôtre Paul, par exemple, s'il y a quelqu'un qui a agi, qui a œuvré, c'est bien lui, mais toujours dans une attitude de repos qui était. C'était pas les événements, les circonstances qui le faisaient bouger, mais c'est cette parole de Dieu. Et que nous puissions prendre modèle et rentrer dans ce repos de Jésus, le meilleur exemple du repos. On le voit jamais courir. Lazare, il meurt, Ah mince, quand même, il aurait pu quand même se dépêcher un peu. Eh bien non. Et là, cette attitude-là, on en est un peu loin quand même, hein, mais que Dieu nous aide à rentrer. Une telle confiance en son Père, qu'il n'y avait rien qui urgeait. Voyez, voilà. Eh bien Seigneur, merci pour ton repos. Merci pour ce repos qui est disponible pour chacun, pour nos âmes, pour nos corps, pour nos esprits, et ce repos, il se prend par la foi. La foi dans ce que tu as pour nous. Et Seigneur, nous voulons nous l'approprier dans la foi. Seigneur, ce repos-là. Nous voulons rentrer dans ce repos aujourd'hui. Seigneur, garde-nous en tant qu'Église de tout activisme, de tout stress, de tout urgence sur urgence. Mais nous voulons nous reposer dans ce que tu as déjà fait et libérer la puissance du Saint-Esprit qui est là, disponible pour ceux qui la reçoivent et pour ceux qui la chérissent. Merci Seigneur. Bénis chacun d'entre nous Seigneur, petits et grands, et que cette atmosphère de repos divin puisse se sentir dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on vit, entre nous et tout seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen.